Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Ils sont en train d'être évacués de Goma vers Kinshasa depuis jeudi. Eux, ce sont les militaires et les policiers congolais ainsi que leurs dépendants, ceux qui s'étaient réfugiés dans les bases de la MONUSCO à l'entrée du M23 à Goma. La première vague a été accueillie hier à l'aéroport international de Ndjili par la première ministre Judith Suminwa. Une bagarre a éclaté hier entre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Omami. Tout est parti de la motion de déchéance contre le vice-président, motion signée par 17 députés sur 27. Mécontent, le vice-président indexé a agressé certains de ses collègues. Et puis, l'invité de ce midi, Momar Maktar Mbenge, formateur à la division des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO. Il nous parle de la série de formations qu'il vient de piloter, notamment à Bounia, sur l'écriture journalistique et la bonne communication autour des activités de vaccination. Madame, Messieurs, bonjour. Les opérations d'évacuation vers Kinshasa des militaires des FARDC et des policiers congolais ainsi que leurs dépendants qui avaient trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO à Goma à l'entrée des rebelles du M23 dans la ville ont été lancées jeudi par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Hier, la première vague arrivée par route à Lubero puis à Beni par hélicoptère de la MONUSCO a pu rejoindre Kinshasa. Elle a été accueillie à son arrivée par la première ministre Judith Suminwa à l'aéroport international de Ndjili. Marc Marofimbo, reportage.
Cette opération est le résultat des négociations entre la MONUSCO, les autorités congolaises et l'AFC M23 afin de sauver ces hommes et femmes qui étaient bloqués dans les bases de la MONUSCO à Goma depuis la prise de la ville par le M23 en janvier dernier. Grâce au camion du CICR, les premiers militaires des FARDC et policiers congolais, accompagnés de leurs dépendants, ont pu quitter Goma pour Lubero, d'où ils ont ensuite été transportés par les hélicoptères de la MONUSCO jusqu'à Benimavivi. Afin, et toujours, grâce aux avions de la MONUSCO, ils ont pu regagner Kinshasa en toute sécurité. Ce samedi, une autre vague d'une cinquantaine de militaires et policiers a pris la destination de Kinshasa par un vol de la MONUSCO. Sur place à Beni, plusieurs rotations des hélicoptères de la MONUSCO sont programmées pour évacuer plus de 200 autres hommes et femmes de Lubero pour Kinshasa. Selon des sources de la primature, la destination finale de ces militaires et policiers est la base militaire de Kitona, dans la province du Congo central, où ils seront hébergés et pris en charge dans le cadre des mesures de soutien du gouvernement. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Province du Tanganyika, on en sait un peu plus sur le kidnapping d'un ressortissant chinois et d'une Congolaise de 21 ans par des bandits armés. C'est confiant hier vendredi à Radio Kapi. L'administrateur du territoire de Kalemi annonce que des négociations sont en cours entre les preneurs d'otages et les Chinois de la cimenterie GLC. Les ravisseurs exigent une rançon avant de libérer les otages. L'administrateur du territoire demande aux autorités de la province de renforcer la sécurité sur l'axe Kalemi-Kabimba qui est le théâtre de plusieurs attaques armées. Récit de Paulin Munanga.
L'administrateur du territoire de Kalemi confirme que les ravisseurs ont contacté des Chinois pour exiger une forte rançon avant la libération des otages. John Mutombo précise que les kidnappings des Chinois sont récurrents sur l'axe Kalemi-Kabimba et il a à maintes fois reprises dénoncé ces phénomènes. La conséquence d'après lui est que les Chinois de la société GLC qui sont des partenaires sont inquiets. John Mutombo.
La société GLC a engagé plus de 80% de la jeunesse du territoire de Kalemi, y compris même ceux-là qui viennent de la province, ils sont engagés. Si nos partenaires commencent vraiment à s'inquiéter comme ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à nos autorités au niveau de la province, que aussi au niveau même national, de nous assister, de nous aider vraiment, de nous renforcer la sécurité, puisque nous avions déjà écrit plusieurs fois, nous avions déjà dénoncé plusieurs fois.
L'administrateur du territoire ajoute que des militaires sont déployés dans la zone pour traquer les ravisseurs. Pour rappel, il y a une semaine, des coupeurs de route ont tendu une embuscade à un convoi sur l'axe Kalemi-Kabimba. Ils ont tué 6 militaires des FARDC et enlevé un Chinois et une jeune Congolaise.
Merci de nous recevoir à Songolo. Nous sommes environ 35 kilomètres de Bounia en Ituri. Ici, nous apprenons que le vice-gouverneur de province a lancé hier les travaux de construction de 18 infrastructures socio-communautaires de base dans les territoires d'Irumu et Djougou. Il s'agit d'ouvrages financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de l'RDC, Star Est. Selon le responsable de ce programme en Ituri, ces projets choisis par la communauté elle-même seront réalisés dans des zones affectées par les conflits armés. Le point avec Jean-Claude Loki.
Au total, 18 ouvrages seront construits dans 9 chefferies et secteurs de territoire d'Irumu et de Djougou. Il s'agit principalement des écoles et des infrastructures sanitaires. Environ 100 km de route de cette agricole seront également ciblés. Par exemple, le tronçon Kombokabo Songolo-Bavi jusqu'à Guédi, un motif de satisfaction pour Masumbu Kouadaba, député provincial élu du territoire d'Irumu.
Ce projet, c'est un réel besoin de la population et ça va, il ne faut pas relier la chefferie des Andissoma, à la chefferie de Bassili et aussi à la chefferie d'Olende Bindi. Nous allons demander à tous les gens de Songolo de se mobiliser pour travailler ces bourses-là, les rendre comme des chats.
Plus de 3000 jeunes, parmi lesquels des ex-combattants, sont bénéficiaires directs de ce projet, affirme le responsable de cette structure en Ituri, Steve Senguida, est le coordinateur provincial de Star Est.
Nous allons renouveler les infrastructures dans les communautés qui ont été très affectées. Nous allons également accompagner les communautés en termes de relèvement par l'octroi des revenus au travers des travaux en timon et des subventions en cash, comme étant des activités de réinsertion et de réintégration des communautés qui ont été affectées.
Plusieurs autres projets seront exécutés dans les territoires de Mambasa et de Mahagi. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Entre-temps, les acteurs sociopolitiques acquis au pacte social SENCO-ECC appellent à la fusion des diverses initiatives en cours à Nairobi, Luanda, Doha et Washington afin de maximiser leur impact. Ces personnalités l'ont fait savoir dans une déclaration publiée hier à Kinshasa. Par conséquent, ils exigent un dialogue national inclusif sous la facilitation de la SENCO-ECC dont la crédibilité et l'expertise sont largement connues, disent-elles. On écoute un extrait de leur déclaration lu par Jean Bosco Lalo, président du Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, KLCC.
Que les acteurs directs des conflits Rwanda, RDC, FCMB3, divers groupes armés se mobilisent sur terrain, il est crucial de donner une voix aux 95% de la population qui demeure victime et aspire simplement à une paix harmonieuse. Négliger ces voix compromettrait gravement les objectifs recherchés. Par conséquent, nous exigeons un dialogue national inclusif sous la facilitation de la SENCO-ECC, dont la crédibilité et l'expertise sont largement reconnues. Nous affirmons à nouveau notre engagement en faveur des solutions pacifiques au conflit. Comme le dit si justement l'adage, là où les éléphants se battent, ce sont les herbes qui appâtissent. Nous dénonçons fermement les initiatives pour la paix qui excluent certains Congolais, notamment la société civile et l'opposition politique non armée. En effet, comme l'enseigne une sagesse populaire, ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi.
Parmi les signataires, on peut citer le KLCC ainsi que les partis politiques SID et LGD. Je vous le disais en titre, des tirs nourris ont été entendus hier à l'Assemblée provinciale de Lomami. C'est à la suite des troubles à l'ordre public occasionnés par une bagarre qui a éclaté entre les membres du bureau. C'était au cours d'une réunion des fixations des matières à traiter à la prochaine plénière, celle d'hier vendredi étant avortée suite à la pluie qui s'est abattue sur la ville de Mbujimayi. De ce fait, le ministre d'État à la justice instruit le procureur général près la cour d'appel de Lomami d'engager des poursuites judiciaires à l'endroit des députés concernés par le conflit. Récit des faits avec Esther Nalafina.
Tout est parti lorsque certains membres du bureau ont voulu aligner à l'ordre du jour de la prochaine plénière la motion de déchéance à l'endroit du vice-président. En effet, 17 députés provinciaux sur le 27 qui comptent cet organe délibérant avaient signé et déposé au bureau de l'Assemblée provinciale une motion de déchéance contre le vice-président. Le rapporteur, voulant alors lui remettre le document, se verra violemment agressé par ce vice-président indexé. Ce dernier, dans sa rage, bondit sur lui l'écorche, lui arrache la pétition et la déchire sur le champ, affirme la cellule de communication de l'Assemblée provinciale. Dans cette rixe, le président tente de s'interposer, reçoit à son tour un coup de boule et s'en sort avec une blessure. Il s'entremêle et les coups partent de partout. Lui-même, l'auteur et distributeur de coups de boule, s'en sort avec une blessure à la tête et des meurtrissures sur son visage. D'après plusieurs messages qui circulent sur les réseaux sociaux, les uns se disent être victimes d'une cabale à la suite de la dénonciation de la mauvaise gouvernance de la province. Saisi de la situation, le ministre d'État et ministre de la Justice instruit le procureur général près la cour d'appel de l'Omami d'engager des poursuites contre les députés concernés par ce conflit. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. Le président de l'UNPC Maniema invite les professionnels des médias à une bonne prise de conscience par rapport à l'évolution numérique. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, aujourd'hui 3 mai. Par la même occasion, Grace Mbambi Wambambi appelle les responsables des médias à offrir un cadre approprié pouvant permettre aux journalistes de bien exercer leur métier. Les professionnels des médias du Maniema célèbrent cette journée à Kindu ensemble avec les autorités provinciales. Grace Mbambi est au micro de Florence Kizalunga.
Écoutez, à toute la profession des médias, c'est un appel que nous sommes en train de lancer, un appel sur la prise de conscience par rapport à l'évolution numérique, parce que comme vous le savez, le thème qui a été retenu cette année, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Donc les journalistes de notre province du Maniema doivent aussi se lancer dans cette évolution numérique, parce que comme nous le savons tous, l'évolution numérique offre aujourd'hui plusieurs opportunités aux journalistes et c'est aussi l'occasion de les appeler à se moderniser et à faire en sorte que le travail que ces derniers sont en train de faire ne se limite pas aux canaux habituels, que ce travail puisse aller au-delà, pourquoi pas sur Internet et d'autres plateformes. Alors, aux responsables des radios, eux aussi doivent comprendre que le monde est en train d'évoluer. Et si le monde évolue, c'est-à-dire que tout doit changer. Et même le travail que nous sommes en train de faire doit aussi évoluer. C'est-à-dire ils doivent aussi mettre toutes les batteries en marche pour offrir un cadre de travail aux journalistes, un cadre approprié pour que ces derniers puissent travailler comme il se doit.
Autre nouvelle, désormais tous les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle OCC doivent signer un contrat de performance. En outre, la cotation entre dans les critères d'octroi des grades, hormis l'ancienneté, et aussi la digitalisation de l'OCC pour une grande mobilisation des ressources et l'octroi des gratifications et des primes aux performances seront mis à en contribution. Ces nouvelles mesures pour redresser l'OCC ont été annoncées vendredi à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur. C'était au cours de la célébration des grades dits cinquantenaires et échange avec les agents et cadres de l'OCC. On écoute le ministre Julien Paluku dans cet extrait proposé par Alain Rongmouchinge.
Nous avons insisté qu'au-delà de l'attribution des grades, il va se poser des défis. On doit payer ces grades. Ça demande beaucoup de moyens. L'OCC a d'autres problèmes auxquels il fait face. Et donc nous avons annoncé quelques décisions, notamment la signature des contrats de performance avec tous les directeurs provinciaux, tous les chefs d'agence, pour nous permettre de mobiliser suffisamment de ressources, parce que ce sont ces ressources qui vont permettre de booster notre office. Vous savez que nous pilotons plusieurs programmes, l'exportation, les importations, les fabrications locales. Et c'est l'OCC qui a la charge d'assurer tous les contrôles de produits à l'import comme à l'export, y compris les produits qui sont fabriqués localement. Et donc pour cela, nous devons mettre un accent particulier sur cet office parce que l'image de la RDC à l'extérieur dépend du travail qui est réalisé par l'Office congolais de contrôle. Alors, nous allons asseoir un certain nombre d'instruments qui vont permettre de suivre à la loupe la gestion de l'office pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Fini cette histoire d'arbitraire si ça existait.
Allons chez Transco à présent, Transport du Congo. L'intersyndicale de cette entreprise publique de transport dénonce des retards persistants dans le paiement des salaires et lance un ultimatum au gouvernement. Elle alerte également sur des tentatives de détournement clairement identifiées selon elle des fonds alloués à Transco dans le cadre des interventions économiques, sociales et culturelles. Écoutons Mudiwamba Datigo, secrétaire général de l'intersyndicale de Transco, dans une déclaration lue vendredi, extrait sélectionné par Ben Chokuta.
L'intersyndicale de l'établissement public Transco a, après avoir tenu sa réunion extraordinaire en date du 26 avril 2025 et adressé sa correspondance décrivant la situation chaotique qui prévaut au sein de cet établissement relative à la rémunération des cadres et agents, déclare ce qui suit. 1. Dénonce le refus manifeste du ministre d'État, ministre du Budget, de libérer le paiement pour le premier trimestre 2025, les crédits alloués en termes d'intervention économique, sociale et culturelle à l'établissement public Transco. 2. S'insurge contre toute tentative de détournement de fonds budgétaires bien identifiés alloués à Transco en termes d'intervention économique, sociale et culturelle.
Actualité internationale.
Nous sommes au Gabon, élu avec près de 95% des voix lors de la présidentielle du 12 avril dernier. L'ancien général putschiste Brice Oligui Nguema prête serment ce samedi dans un stade situé près de Libreville, la capitale gabonaise. Plusieurs chefs d'État du continent africain arrivent sur place pour la cérémonie. Le général président, auteur du coup d'État qui a mis fin en août 2023 à 55 ans de règne des Bongos sur le pays, prendra officiellement les commandes après avoir dirigé une transition de 19 mois.
L'invité.
Il s'agit de Momar Maktar Mbenge, formateur à la division des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO. Il a piloté une série de formations sur l'écriture journalistique sur la santé et la bonne communication autour des activités de vaccination. Il nous parle de comment briser la chaîne de la désinformation et de la peur dans certaines personnes qui manifestent un certain scepticisme ou de l'hésitation vis-à-vis des vaccins. Il s'entretient avec Martial Kizabia Mungu.
Momar Mbenge, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'organiser ici à Bounia une série de formations des leaders communautaires et journalistes sur la bonne communication autour des activités de vaccination. Pourquoi cet thème et pourquoi des leaders communautaires?
Comme vous le savez, le gouvernement est déterminé à éradiquer la polio et c'est la raison pour laquelle la MONUSCO et l'UNICEF déploieront tous les moyens à leur disposition pour appuyer justement les autorités. Cette bataille qui nécessite la contribution de vraiment tout le monde. Comme vous le savez, la variole a été éradiquée il y a plusieurs décennies et nous sommes vraiment au bout du chemin avec la polio. D'importants résultats ont été observés au cours des dernières années et je suis confiant quant à la capacité des autorités avec l'appui des leaders communautaires. Les leaders communautaires sont les personnes que les gens écoutent plus que quiconque. Donc lorsqu'on court un marathon ou qu'on réalise un projet, on dit souvent que c'est le dernier kilomètre qui est le plus difficile. Et donc ce sont eux qui sont au contact des populations et qui peuvent justement leur donner l'information. Donc l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur ces leaders d'opinion pour leur donner les clés, les arguments qui leur permettront de convaincre les plus réfractaires ou ceux qui manquent d'information ou bien de motivation.
Momar Sidi Maktar Mbenge, que peut-on donc retenir de ces différentes formations qui ont réuni du lundi au vendredi plus d'une centaine de participants?
C'est justement de rassembler ces personnes-là et de les sensibiliser à plusieurs enjeux, à l'importance du calendrier vaccinal, au nouveau calendrier vaccinal qui va être déployé dans le pays, aux pratiques de santé familiale, à la vaccination et en général, donc comme vous pouvez l'imaginer, il y a des débats qui ont été un petit peu intenses et il existe encore beaucoup de personnes qui, en raison de croyances, de la religion ou surtout de l'ignorance, qui sont encore réfractaires à la vaccination. D'après les études, la variole aurait été responsable de 10% des décès. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à son éradication, une personne sur 10, quasiment, mourait de la variole. Et ça remonte même à depuis l'Antiquité. En 2000, on avait 800 000 personnes qui mouraient de la rougeole. Aujourd'hui, c'est 100 000 par an à échelle mondiale. Donc on voit qu'il y a des nets progrès qui ont été enregistrés. Et ça, c'est grâce à la généralisation de la vaccination de routine.
Alors, qu'attendez-vous désormais des professionnels des médias et surtout des leaders communautaires pour aider à lutter contre la désinformation sur la vaccination avec les conséquences que l'on connaît?
Mais donc ce qui est attendu, c'est que maintenant, eux, à travers leur programme, à travers leur audience, mobilisent les gens, appuient les autorités lorsqu'il y a des campagnes, à mobiliser les gens, à partager de la bonne information, à guider les individus. Il y a des émissions qui peuvent être créées, interactives, pour sensibiliser à la vaccination. Et maintenant, les leaders communautaires, c'est à eux de convaincre leur propre communauté d'aller se faire vacciner.
Alors, Momar Mbeng, souvent, après certaines formations des formateurs, la restitution auprès de la base n'a pas été au rendez-vous. Avez-vous recommandé aux participants d'être sur le terrain pour sensibiliser les populations? Si oui, quel mécanisme avez-vous mis en place pour le suivi de ces sensibilisations?
Justement, alors l'idée de cibler encore une fois les leaders communautaires, c'était justement d'avoir les personnes qui sont au contact de la population. Ça veut dire que les journalistes qui communiquent en langue locale, qui réalisent des émissions, c'est les programmes que la plupart des gens écoutent. Donc c'est eux qui peuvent justement inciter, développer le débat et développer les échanges.
Une dernière question, pourquoi n'avoir pas sollicité ou associé les confessions religieuses à ces formations, souvent accusées de donner des fausses informations sur les vaccins? Pensez-vous qu'avec le leader communautaire et les médias, vous parviendrez à briser la chaîne des suspicions et de la désinformation?
Je pense que ce serait une erreur de cibler uniquement les leaders religieux. Lorsque l'on regarde le travail que fait la MONUSCO sur la désinformation, on se rend compte que justement, et puis même, il suffit juste de l'observer, tout le monde est potentiellement auteur de désinformation. Et parfois, malheureusement, on fait de la mésinformation, c'est-à-dire que l'on partage une information qui est fausse sans l'intention de la donner.
Momar Seydi Maktar Mbeng, merci.
Merci à vous.
Le formateur à la division des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO répondait aux questions de Martial Kizabiamungu. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision de Alain Rong Mouchinge, à la mise en onde Billy Landry Betou. Merci d'avoir été des nôtres.